Bonjour à toutes et à tous. Depuis quelques années, et on l'a vraiment senti avec la crise du coronavirus, le complotisme semble être partout.
Ah oui, sur les réseaux, dans les repas de famille.
C'est ça, c'est un sujet qui divise, qui enflamme. Alors pour tenter d'y voir un peu plus clair, on a décidé de se plonger dans une analyse de Julien Lecomte sur son blog Philosophie, Médias et Société.
Un texte vraiment intéressant.
Oui, parce que son but, ce n'est pas de se demander si les complots existent. L'histoire a prouvé que oui. Non, lui, il s'attaque à la racine du problème, la manière de penser complotiste. On va essayer de décortiquer ça ensemble.
C'est la bonne approche, je pense, parce que le mot complot est devenu un peu un fourre-tout. Et d'ailleurs, pour éviter toute confusion, l'auteur commence par une distinction essentielle.
Ah oui.
Entre trois termes, c'est la base pour vraiment comprendre de quoi on parle.
Alors, allons-y. Le premier, j'imagine, c'est le complot. Tout simplement.
Exactement. Le complot, c'est un fait, un événement historique, un groupe de personnes qui, en secret, organisent une action. L'exemple type, c'est l'assassinat de Jules César. C'est concret, daté, prouvé.
D'accord.
Ensuite, il y a la théorie du complot. Là, on est dans l'hypothèse. C'est l'idée qu'un événement, un attentat par exemple, n'est pas ce qu'il semble être, qu'il est en fait orchestré en coulisses.
À ce stade, on ne sait pas si c'est vrai ou faux.
Justement, c'est une thèse. Elle doit être examinée, prouvée ou réfutée.
Ok, donc on a le fait avéré et l'hypothèse à vérifier. Et le troisième terme, c'est le complotisme, le cœur de notre sujet.
C'est ça. Le complotisme ou le conspirationnisme, ce n'est ni un fait, ni une simple hypothèse. C'est une posture.
Une posture intellectuelle.
Oui, une attitude systématique. Une grille de lecture du monde qui part du principe que les institutions officielles, les gouvernements, les médias, la science, mentent, par défaut.
Le fameux on nous cache tout, on nous dit rien.
Le postulat de base, c'est ça. Et c'est cette méfiance de principe qui est au cœur du problème.
Je vois. Et c'est là que l'article utilise une analogie que je trouve géniale.
Ah oui.
Même une horloge cassée indique l'heure exacte deux fois par jour.
C'est excellent.
L'idée, c'est que ce n'est pas parce qu'une théorie du complot, par hasard, tombe juste sur un point que le raisonnement derrière est validé.
Précisément. Et le premier grand défaut de ce raisonnement, le premier piège logique, c'est l'inversion de la charge de la preuve.
Ah oui, le fameux « prouve-moi que j'ai tort ».
C'est exactement ça. En logique, en science, en droit, la règle est simple. C'est à la personne qui affirme quelque chose d'apporter la preuve de ce qu'elle avance.
Ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve.
Voilà. Si je vous dis qu'il y a une licorne rose invisible dans mon garage, ce n'est pas à vous de me prouver qu'elle n'existe pas. C'est à moi de vous la montrer.
Et l'attitude complotiste, elle fait tout l'inverse. L'auteur donne un exemple qui est très parlant.
Celui de l'Alaska.
Oui.
Si quelqu'un affirme il pleut des boules de feu en Alaska et que je réponds je n'ai aucune preuve de ça,
Sa réponse sera
ah, tu ne peux pas prouver que ça n'arrive pas. Donc, mon hypothèse est valable.
C'est redoutable comme technique, parce que ça ne s'arrête jamais. On déplace le fardeau sur l'autre qui doit passer son temps à démentir des affirmations gratuites.
C'est une stratégie d'épuisement. Et c'est d'autant plus insidieux que cette rhétorique, elle se présente toujours sous des dehors vertueux. L'esprit critique, le doute.
Mais ce n'est pas du tout la même chose.
Non. Et le complotisme, il procède rarement par affirmation directe. Son outil préféré, c'est l'insinuation.
Le fameux je ne fais que poser des questions.
Voilà. On ne dit pas le gouvernement a organisé ça, mais on dit il y a quand même beaucoup de coïncidences troublantes, non? Je dis ça, je dis rien.
C'est une façon de semer le doute sans jamais prendre la responsabilité de prouver quoi que ce soit.
Exactement. Et d'ailleurs, l'auteur le dit bien dans une mise à jour de son texte. Poser des questions, ce n'est pas en soi une preuve d'esprit critique. Surtout quand ce sont des questions rhétoriques, qui sont en fait des accusations déguisées.
Attendez, l'article parle aussi d'une autre technique, le millefeuille argumentatif. J'adore le nom.
Ah oui, il est très bien trouvé. En anglais, c'est le guiche gallop.
Ça consiste en quoi exactement?
L'idée, c'est de submerger l'autre sous une avalanche d'arguments, de questions, de sous-entendus, de pseudo-preuves. Peu importe la qualité. Le but, ce n'est pas de convaincre par la force d'un argument, mais par le nombre.
Du coup, la personne en face est obligée de réfuter point par point une montagne d'affirmations. Ça demande une énergie folle.
C'est une guerre d'usure.
C'est totalement asymétrique. Pendant que je passe 10 minutes à démonter un de vos 10 arguments bidons, vous avez le temps d'en inventer 20 autres.
C'est ça. Le but n'est pas la vérité, c'est de donner l'illusion qu'une telle accumulation de doutes finit par faire preuve. Le fameux il n'y a pas de fumée sans feu. Sauf que là, la fumée est complètement artificielle.
Mais alors, on arrive à une situation complètement tordue. Si on se méfie à ce point des médias officiels, des scientifiques, de tout le monde, vers qui on se tourne?
Ben oui.
Et c'est là que l'article pointe un paradoxe fascinant sur la confiance. On quitte une méfiance parfois justifiée pour tomber dans une crédulité totale.
C'est le cœur du paradoxe. Et l'exemple que donne l'auteur est une pépite. Il faut que vous le racontiez.
D'accord. C'est l'histoire d'un média X, un site, bon, clairement complotiste, qui publie un message rageur. Les médias nous mentent. Ils racontent n'importe quoi.
Classique.
Très classique. Mais pour le prouver, il partage un extrait vidéo. Et cet extrait, il vient...
d'une émission de LCI.
Attendez, c'est délicieux. Il utilise le média qu'il dénonce pour prouver sa thèse.
Précisément. Et le pire, c'est le contenu de l'extrait. On y voit des experts, sur le plateau d'LCI, qui sont en train de critiquer la manière dont certains chiffres du coronavirus sont présentés par les autorités.
Ah, d'accord. Ils expliquent pourquoi cette présentation peut être anxiogène, trompeuse. Bref, ils font preuve d'esprit critique. À l'intérieur même d'un média traditionnel.
C'est absolument vertigineux. Donc, le média Y, complotiste, trouve un moment où le média traditionnel fait son travail de débat, d'autocritique.
Et il le brandit comme la preuve que ce même média ment de façon monolithique.
C'est l'illustration parfaite du scepticisme à géométrie variable. On pioche ce qui nous arrange, même chez l'ennemi, pour confirmer une croyance qu'on a déjà. On ne cherche pas à comprendre, on cherche à avoir raison.
C'est terrifiant comme perspective. On parle beaucoup de désinformation, mais là, c'est la paralysie de la pensée. Je crois que l'article cite Hannah Arendt à ce sujet, et la phrase est glaçante.
Oui, elle met le doigt sur le danger politique ultime de cette posture. Elle écrit « Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. »
Et elle conclut
« Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. »
C'est puissant. Ce qu'elle dit, c'est que ce doute absolu, cette idée très à la mode du « tous pourris, on ne peut pas être sûr de rien », ce n'est pas un acte de libération, c'est une abdication.
C'est la dissolution de la notion de savoir commun. Si les faits, la méthode scientifique, le travail des journalistes sont balayés au profit de l'intuition, ben on ne peut plus rien construire ensemble, quoi.
D'accord, mais est-ce qu'on ne risque pas, en disant tout ça, de mettre tout le monde dans le même sac ? J'imagine que beaucoup de gens se méfient des institutions pour de bonnes raisons.
C'est le point de nuance le plus important, et l'auteur y est très attentif.
Le risque, c'est que le mot complotiste devienne une insulte pour disqualifier toute critique.
C'est un vrai danger. D'ailleurs, dans les commentaires de l'article, il y a une intervention d'un certain Pascal Gilardin qui est très éclairante. Il dit en gros que les vrais complots aujourd'hui sont plus subtils. Le lobbying, les collusions d'intérêts financiers.
Il prend l'exemple des vaccins Covid. C'est ça, hein, en suggérant que c'était plus une logique économique que sanitaire.
Voilà. Pour lui, c'est parce que les médias traditionnels parlent peu de ces magouilles réelles que la méfiance généralisée s'installe.
C'est une critique légitime. On peut enquêter sur les labos pharmaceutiques sans croire que Bill Gates nous implante des puces 5G.
Et Julien Lecomte, l'auteur, est tout à fait d'accord sur le fond. Il insiste, il est non seulement possible mais nécessaire d'enquêter sur les collusions, les conflits d'intérêts. C'est ça le travail d'un contre-pouvoir. La différence, dit-il, n'est pas dans le quoi mais dans le comment.
C'est-à-dire la méthode.
Exactement. Critiquer le pouvoir avec rigueur, ça veut dire s'en tenir aux faits. Documenter, croiser les sources, prouver ce qu'on avance. La posture complotiste, elle, va partir d'un fait isolé pour en faire une généralisation abusive.
Du genre, il y a eu un cas de corruption, donc ils sont tous pourris.
C'est ça. On passe de l'enquête factuelle à la spéculation paranoïaque, où tout est secrètement connecté. La frontière, elle est là.
Je comprends la distinction, sur le papier, mais en pratique, si on a le sentiment d'avoir été trahi... tromper. Comment on ne bascule pas dans la méfiance totale?
Vous mettez le doigt sur le dernier point de l'article, qui est peut-être le plus humain. Le complotisme, ce n'est pas qu'une erreur de logique. C'est aussi souvent une réponse émotionnelle.
Une rupture de confiance.
Oui. L'auteur utilise une métaphore que je trouve incroyablement juste. Celle du couple.
Développer.
Imaginez une personne qui a été trompée par son partenaire. Même si après, le partenaire se comporte de manière irréprochable, la confiance est brisée.
La personne trompée va peut-être devenir méfiante, hypervigilante, voir des signes partout.
Voilà. Ce n'est pas forcément rationnel, mais c'est profondément humain. La méfiance envers la presse ou les gouvernements, c'est parfois une réaction similaire. il y a eu des mensonges avérés par le passé, du coup c'est très difficile de refaire confiance.
Et ça, c'est crucial, parce que ça veut dire que la réponse au complotisme ne peut pas être juste du fact-checking.
Inonder quelqu'un de faits ne sert à rien si le problème de fond, c'est une blessure émotionnelle, un sentiment de trahison.
Donc la solution serait...
Double. C'est ce que propose l'article. D'un côté, éducative, apprendre l'esprit critique, la zététique, comment évaluer une source. Mais de l'autre, et c'est souvent l'angle mort, une solution socio-affective.
C'est-à-dire ?
Écoutez, la colère, l'angoisse, le sentiment d'impuissance qui se cache derrière le discours. Essayez de comprendre la cause de la rupture de confiance plutôt que de juste balayer les arguments en disant « c'est absurde ».
C'est un travail beaucoup plus long et complexe.
Beaucoup plus.
Bon, si j'essaie de résumer, le point de départ, c'est de bien distinguer le complot fait, la théorie hypothèse et le complotisme posture.
C'est la base.
Le vrai problème du complotisme, ce n'est pas de douter, mais sa méthode, une logique défaillante, l'insinuation et un doute absolu qui finit par paralyser la pensée.
Tout à fait.
On a aussi vu ce paradoxe incroyable où on se méfie de tout, sauf des pires sources. Et enfin, et c'est essentiel, critiquer le pouvoir est nécessaire, mais ça doit se faire avec rigueur, sans tomber dans la parano.
C'est une excellente synthèse. Et ça ouvre sur une dernière question, une pensée pour la route, qui est inspirée par toute cette discussion.
Je vous écoute.
On a beaucoup parlé de complot, avec des complotistes, des gens qui tirent les ficelles. Mais, et si certains phénomènes sociaux fonctionnaient comme des complots, mais sans chef d'orchestre?
Comment ça? Un complot sans comploteur?
Pensez à ce que l'article appelle des synergies collectives inconscientes. Le capitalisme, par exemple. Il n'y a pas de salle secrète où un groupe décide de créer des inégalités.
Non, bien sûr.
Pourtant, la somme de milliards de décisions individuelles, chacune cherchant son propre intérêt, produit des effets systémiques qui, vus de loin, peuvent ressembler à un plan concerté.
C'est un système qui produit des effets pervers sans intentionnalité maléfique au centre.
C'est ça. Et cette idée-là, elle est vertigineuse. Et beaucoup plus angoissante, en fait.
Oui, parce qu'il n'y a personne à blâmer.
Exactement. Et c'est peut-être là qu'on touche aux besoins psychologiques que remplit le complotisme. Il offre ce que l'auteur appelle un confort intellectuel factice. Il remplace une réalité complexe, angoissante, sans coupable clair, par un récit simple avec des méchants identifiés.
Contre qui on peut se battre?
Voilà. La vraie question, la plus difficile, serait donc peut-être celle-ci. Comment apprend-on collectivement, à affronter la complexité d'un monde où des systèmes peuvent être destructeurs sans qu'il ait forcément un grand méchant qui tire toutes les ficelles.